On va terminer bientôt la lettre de Paul aux Romains. Et aujourd'hui, on va voir qu'il va nous parler, il devient un peu plus personnel. Et ça tombe bien parce que cette semaine, il y a un nouveau film qui est sorti. C'est le film qui s'appelle « Paul, apôtre du Christ ». Et c'est un de ces nouveaux films chrétiens ou sur des thèmes chrétiens qui sont faits avec une qualité hollywoodienne. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut qu'on vénère Hollywood, mais c'est d'habitude, les films chrétiens ne sont pas très bien réalisés, il y a peu de moyens. Là, ils commencent à avoir ils réalisent qu'il y a un public chrétien et ils font des films de qualité cinématographique. Maintenant, au niveau biblique, j'ai eu un commentaire disant que c'est juste quant à l'environnement, aux persécutions. Ça se passe en fait dans la prison où Paul a passé les dernières années de sa vie. Et là, apparemment, il sera en train de dicter son évangile, l'évangile de Luc, ou donner des informations à Luc, qui va écrire le livre des Actes et l'évangile de Luc. Donc, c'est pas nécessairement un suivi du texte biblique, mais l'évocation est assez bonne, on m'a dit. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on aille voir ces films pour que ça continue, ils continuent d'être montrés en France. Je crois que c'est un film à voir. Je ne l'ai pas encore vu, donc ne venez pas me reprocher si c'est un navet. Mais ce que j'ai entendu était plutôt positif, même si ce n'est pas strictement les descriptions bibliques. Mais ça donne une idée de la détermination de Paul dont on va parler aujourd'hui, des persécutions, de l'œuvre incroyable que le Seigneur a réalisée à travers lui. Voilà, tout ça pour introduire Romains 15. On va étudier aujourd'hui à partir du verset 14 et d'abord on va remettre ce temps au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de l'avoir préservée jusqu'à nous, Seigneur. Merci de ce que nous pouvons l'avoir entre nos mains. Nous pouvons la lire, nous pouvons l'étudier, la méditer, la mémoriser. Mais surtout, Seigneur, tu veux qu'elle transforme nos cœurs. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Et c'est notre prière. Les choses que nous allons voir aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'aider à les exposer, à les mettre en valeur. Mais c'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous parle. C'est toi qui peux, à partir d'un même texte, parler à chacun de nous ici présents aujourd'hui pour nous montrer nous encourager, nous reprendre, nous enseigner dans toutes tes voies, nous préparer à toutes les œuvres bonnes, comme Paul le dit dans 2 Timothée 3,16, Seigneur. Je te demande d'être à l'œuvre. Je pense aussi à toutes les églises qui t'adorent en esprit, en vérité, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Je prie pour que ton nom soit connu, soit béni, Seigneur. Seigneur, oui, on te remet ces moments, sois à l'œuvre. Merci pour Paul et sa vie. Amen. Donc, on arrive à la fin du chapitre 15. Il reste un dernier chapitre, le chapitre 16, et on aura peut-être une session de rattrapage, de rappel de la lettre, une des plus importantes textes de l'histoire de l'humanité, qui a provoqué des transformations très profondes dans le monde occidental, dans le monde entier, tout court. Et là, comme je le disais, Paul devient plus personnel. Il a commencé avec des choses très, très théologiques, des principes, des vérités bibliques. Et puis, il est passé à des applications pratiques. Et là, il nous livre un peu son cœur. On a terminé le passage de la fois dernière par un superbe verset: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Une superbe prière qu'il fait pour nous, qu'il faisait pour nous, à l'époque c'était pour les Romains, à travers les âges c'est pour nous aujourd'hui. C'est le Dieu de l'espérance, l'espoir. La sagesse populaire dit « l'espoir fait vivre ». Et c'est bien vrai, on est tous passés par des moments de désespoir, on tombe dans la dépression, on n'a plus rien qui nous motive. Si on ne croit plus en quelque chose de positif dans l'avenir, le mot espérance ici, ce n'est pas simplement l'espoir, comme j'ai bon espoir de gagner au loto un jour si je continue à dépenser 100 € par mois, au bout de 10 ans, j'aurais dépensé 12 000 €. Peut-être que je gagnerais 5 000 €. Non. L'espérance, là, c'est l'assurance d'un bien qui va arriver. C'est être sûr que quelque chose va se passer. Et ce Dieu, c'est un des titres de notre Dieu, il est le Dieu du réconfort, il est le Dieu de la vérité, mais il est aussi le Dieu de l'espérance. Et il peut nous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi. Des fois, les circonstances ne corroborent pas ce sentiment de joie et de paix et d'espérance, mais c'est justement là que la foi intervient. La foi, c'est croire sans voir. Les gens disent, moi si je vois, je croirai. Jésus, Dieu nous dit, crois et tu verras. C'est un principe assez remarquable et tout bête qu'on utilise dans tout. Les scientifiques qui cherchent des trouvailles, ils croient qu'il y a des principes à découvrir. Ils croient et ils vont voir. Il y a quelques années, il y avait dans les journaux, on voyait ce qu'on appelait l'œil magique. C'était des photos, des dessins sur le. On ne voyait vraiment pas grand-chose, on voyait que des petits traits, etc. Mais en fait, si on regardait en laissant nos yeux flotter un peu, à un moment donné, c'était comme un enchantement par magie. Il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà vu l'œil magique. Ah, il va falloir que je vous en amène, hein. On va faire des entraînements. C'est un entraînement à la foi. Sérieusement. Parce qu'on vous dit, il y a quelque chose à voir. Et vous dites, mais non, il n'y a rien à voir. Et puis, d'un seul coup, c'est l'illumination. Et la vie chrétienne, c'est ça. La parole nous dit des choses. Si on les recherche, si on sait qu'elles sont là, à un moment donné, on les voit. Ah, Jésus est réel. Jésus m'aime. Il a un plan pour ma vie. Il a des bons projets pour l'Église. Il va se révéler à l'humanité et je peux participer à cette révélation en m'associant à cette œuvre pour le royaume de Dieu. Et donc, cette vision de Paul, cette foi, elle nous fait déborder d'espérance. C'est un cercle vicieux dans le bon sens, on dit un cercle vertueux. Mais on parle plus souvent, malheureusement, surtout en France, des cercles vicieux. Parce que les Français sont pessimistes, les Français croient en rien, ne croient pas en l'avenir. La foi pour que vous débordiez d'espérance. Est-ce que vous avez déjà été quelqu'un auprès de quelqu'un qui déborde d'espérance? Et qui sourit, qui dit « mais c'est pas grave, on va y arriver ». Et moi j'ai vécu un peu aux États-Unis et cette foi chrétienne, elle a affecté la société là-bas. Les gens disent « yes, we can ». Ce n'a pas été inventé par Obama, ça, il a pris ça, mais on croit qu'on peut arriver à faire des choses. Ici en France, on ne peut pas réformer, on ne peut rien faire. On s'est rouspété. Mais avoir débordé d'espérance. Et nous qui avons été touchés par la grâce, qui connaissons le Seigneur Jésus, nous devons déborder d'espérance. Et ça touche les gens autour de nous. Amen. Voilà, on va lire par petits morceaux. Verset 14 de Romains 15, je lis dans la version second 21, c'est la même que celle qui peut vous être prêtée pendant le culte si vous n'avez pas de Bible. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit-Saint. Il parle là des chrétiens de Rome. Et en les complimentant, en quelque sorte, il avait dit dans le tout premier chapitre qu'il avait entendu parler de leur foi et qu'il en était très heureux. Il leur disait que leur foi était connue dans le monde entier. Là, il leur dit « Je suis personnellement convaincu. J'ai aucun doute là-dessus. » Et il procède à des compliments. Alors, ça peut être vu comme un procédé un peu pas malhonnête, mais un peu manipulateur de dire « Ah, c'est super, vous avez fait ça, mais... » C'est souvent aussi une bonne façon de faire passer un message à quelqu'un quand on veut corriger quelque chose. Si on vient en critiquant avec un esprit qui est méchant, qui ne donne pas d'espoir, justement, le message ne va pas être reçu. Le message va être bloqué, on ne va pas vouloir écouter la personne. Là, il leur dit, voilà, je vous ai écrit... vous chrétiens de Rome, mais c'est pas parce que je pense que vous êtes de mauvais chrétiens. Je vous ai instruit dans certaines choses, et l'idée en fait aussi c'est une façon de nous dire en quoi consiste un bon chrétien. Si vous êtes coach de foot et que vous avez vos enfants devant vous, un bon footballeur, il ne va pas arrêter d'y croire. Il va continuer à courir jusqu'à la fin, toujours en pensant aux autres, en faisant des passes. Et en parlant de ce que doit être quelqu'un de bien, vous donnez des consignes aux enfants. Ne vous découragez pas, continuez de courir, allez jusqu'au bout de vos forces. C'est ce que est en train de faire le coach de l'OGC Nice en ce moment. Il va y avoir un grand match contre l'OM ce soir, pour ceux qui s'intéressent au foot. Il ne va pas leur dire « vous êtes des nuls, vous n'allez jamais y arriver ». Il va dire « courez jusqu'à la fin, croyez-y, on peut le faire ». Et là, il nous dit « je suis personnellement convaincu, donc soyez tranquille, je sais ». Et il nous dit, voilà aussi ce qui vaut que vous soyez. Trois points pour commencer. Vous êtes plein de bonnes dispositions. C'est le mot qui est souvent traduit par bonté. Vous êtes des gens bons. Vous montrez de la bonté aux autres. Ça, c'est très important, cette qualité de bonté envers les autres. C'est à votre amour que le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous aimez de façon sacrificielle, de façon agapée. C'est aussi quelque chose qui est attirant, la bonté, la gentillesse. Il leur dit aussi qu'ils sont remplis de toute connaissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont Le fait d'abord qu'ils étaient bons, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Il n'a pas dit qu'ils étaient parfaits, qu'ils n'avaient pas besoin de progresser. Mais vous êtes plein de bonnes dispositions. Ça se voit et c'est apprécié. Vous êtes rempli de toute connaissance. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin qu'on vous instruise. Ça veut dire que vous agissez à partir de la connaissance que vous avez reçue. Et puis, un troisième point, vous êtes capable de vous avertir. Vous êtes capable de vous avertir les uns les autres. Le Nouveau Testament, on a dit souvent que c'est le livre du « les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Ayez de la considération les uns pour les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que cet avertissement ? Ce n'est pas pour donner un carton jaune, pour tomber sur un carton rouge, je prolonge la métaphore footballistique. Non, avertir, ça veut dire faire appel, mettre quelque chose à l'esprit de quelqu'un. Sachant qu'il y a aussi de l'opposition à ce que cette chose soit reçue. S'avertir les uns les autres. J'ai noté une explication par un auteur chrétien, Chuck Swindoll, qui disait « Les chrétiens romains se souciaient si réellement les uns des autres qu'ils prenaient le temps et le risque de confronter avec amour ceux qui, dans leur rang, se détournaient du droit chemin. » Et donc, Paul nous dit, ça c'est une qualité à côté de la bonté, à côté de la connaissance, de la parole, de la mise en application de ce qu'on sait déjà. Un élément très important, c'est être capable de confronter les personnes qui dévient de ce que doit être la vie du chrétien. Lorsqu'il y a du péché dans la vie de quelqu'un, il faut pouvoir le leur dire. Et ce même auteur faisait remarquer que souvent, nous ne le faisons pas. Et il voyait trois raisons possibles, ou plutôt trois options que nous préférons bien souvent. C'est d'éviter la confrontation, complètement. C'est drôle, vous savez, autour de vous, il y a des gens qui se réjouissent, qui se nourrissent de confrontations. Sans faire de politique, vous voyez un gars comme Mélenchon, s'il ne pouvait plus faire confronter les gens, il mourrait. Il ne pourrait plus vivre. C'est sa vie, c'est de... Que ce soit juste ou faux, et ce n'est pas encore un jugement politique, peu importe, c'est dans sa nature. Heureusement, peut-être, peut-être pas, c'est pas un trait de caractère qui est très répandu. Ça permet plus de paix peut-être, mais ça permet aussi peut-être que des choses se pourrissent alors qu'elles devraient être réglées d'entrée. Ou alors on évite la confrontation complètement, ou alors on y fait face, on y va comme Mélenchon, mais on l'a fait avec une attitude d'orgueil. Et c'est pas reçu non plus. Oh, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, mais tu es le moindre des chrétiens. C'est pas possible. Et puis, la troisième raison pour laquelle on ne confronte pas avec amour ceux qui se détournent du droit chemin, c'est peut-être parce qu'on a reconnu le problème, mais on évite de fâcher. On veut garder la paix, on veut garder l'amitié, l'harmonie. Et là aussi, il y a des caractères où on préfère mettre la poussière sous le tapis de façon à ce que toutes les choses aient l'air en ordre. Mais ça n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Donc je ne sais pas où vous situez dans... Moi j'ai peut-être une petite idée, vous avez peut-être une petite idée pour moi-même, pour moi plutôt. Moi j'aime pas la confrontation. Et pourtant, c'est salutaire et nécessaire. Et là, il faut, avec l'aide de Dieu, se corriger. Si on est trop, si on est excessif d'un côté ou de l'autre, il faut demander à Dieu de nous donner la sagesse. Mais il y a des passages dans la Bible très clairs là-dessus, notamment le Proverbe 27:6. Proverbe 27:6, qui nous dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Un vrai ami va être honnête avec vous et va vous dire la vérité, même si elle vous fait mal, mais ça vaut mieux que quelqu'un qui dit « Oh, tu es parfait, tu es un grand homme de Dieu, etc. » qui va en fait vous tromper, pour quelle que soit sa motivation, et ça nous encourage à apprendre, c'est pas toujours facile, à recevoir les critiques lorsqu'on sait qu'elles sont faites avec un esprit d'amour, et qu'elles sont là pour nous corriger, pas pour nous enfoncer. Ne jugez pas afin qu'on ne vous juge pas. Le mot ne jugez pas, c'est ne jugez pas les gens pour les enfoncer. Mais par contre, il faut juger, être capable de savoir, de discerner le bien du mal et de reprendre ceux qui sont dans l'erreur. Matthieu 18 nous donne des procédures à suivre. Si quelqu'un a péché, vous allez le trouver personnellement et vous le confrontez avec amour. S'il ne répond pas, vous venez avec une autre personne, et puis avec un ancien, et puis à la fin, vous le dites à l'Église, et vous le traitez comme un non-croyant. Ça ne veut pas dire que vous l'excluez pour le rejeter en enfer, mais vous considérez qu'il n'a pas appris le béaba de la foi chrétienne, s'il n'est pas prêt à se repentir de certaines choses. Donc voilà ce qu'un chrétien doit être rempli de bonté. Il doit avoir un désir de connaître davantage Dieu par sa parole, par la communion fraternelle, et aussi être capable d'avertir l'autre lorsqu'il fait fausse route. Et puis il continue en disant, c'est avec une certaine audace, c'est le mot qui veut dire quelqu'un qui ose, que je vous ai écrit par endroits comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite. C'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit et qui était sensible à la réaction de ses interlocuteurs. Et il pensait que peut-être il y avait des moments où il leur avait dit des choses qui avaient pu être mal reçues. Il leur dit, je vous ai écrit parfois peut-être avec une audace qui vous a peut-être choqué ou offensé. Mais je le fais parce que je veux réveiller vos souvenirs. C'est terrible. Combien de choses dont on se souvient, de tant de choses dont on n'en a pas besoin de se souvenir. Par contre, les choses dont on devrait se souvenir, on les oublie. Notre mémoire, maintenant, a ces prothèses qui n'encouragent pas le développement de notre propre mémoire. En ce qui concerne la parole, je ne pratique pas vraiment la discipline de la mémorisation, et pourtant elle est si bonne, cette mémorisation de la parole. Les numéros de téléphone, combien d'entre vous connaissent un numéro de téléphone par cœur autre que le vôtre ? On va imaginer que vous connaissez le vôtre. Est-ce que vous connaissez un seul numéro par cœur ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est pas mal, bravo, 12 même. Mais on a tendance, et c'est pas grave dans ce cas-là, puisqu'on a normalement un appareil qui nous permet de, de retrouver ce numéro, même pas d'appeler la personne sans qu'on sache quel est le numéro. Ça a des problèmes. Nancy a fait tomber son téléphone dans les toilettes et elle va vous redemander vos numéros de téléphone. Pour certains, parce qu'on a un pool de numéros que je peux lui redonner. Et j'aimais bien, il y a un auteur chrétien qui disait, Ray Stedman, pour le nommer, une des plus grandes preuves de la chute de l'homme suite au péché originel, c'est que nous avons tant de mal à nous souvenir de ceux dont nous voulons nous rappeler, et nous nous souvenons si facilement de ceux que nous voudrions oublier. Souvent, il m'arrive de donner les paroles d'une chanson populaire, non chrétienne. Et je suis sûr qu'il y a dans votre tête des slogans publicitaires. Si je vous demande de citer Romains 14, 15, 13, vous allez me regarder avec un drôle de regard. Romains 15, 13. Par contre, si je vous dis, vous avez droit à un break, ou si je ne sais pas quoi, mais je vous laisse imaginer la pub qui est dans votre tête, les musiques qui vous rappellent des produits, etc., etc. Il leur rappelle, parce qu'on a tendance à oublier, et c'est pour ça qu'il est bon de lire la Bible et de la relire. Souvent, des gens disent « Oh, j'ai lu la Bible une fois entièrement, c'est bon, je la connais. » Je dis « Non, ça ne suffit pas. » Et en plus, la Bible, elle n'est pas là pour être lue une fois, elle est là pour vous parler. Donc c'est un contact avec la parole et c'est dans le silence de votre temps de quotidien où vous pouvez laisser Dieu vous parler. Et puis il explique, s'il est un peu insistant pour répéter des choses, c'est parce qu'il est Dieu lui a fait une grâce. C'est pas quelque chose qu'il a mérité, mais il a été fait. Il dit serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs, c'est-à-dire pour les païens. Je m'acquitte ainsi du service sacré. Le mot, c'est le mot comme la liturgie, de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit-Saint. Il reconnaît qu'en fait, c'était le Saint-Esprit, c'était des dons de Dieu, de sa grâce, de sa puissance. S'il avait cette hardiesse et la capacité de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Il était, à l'époque, on divisait l'humanité entière entre deux catégories. Et à une époque, il y avait les hommes et les femmes. Maintenant, on en rajoute d'autres. Aujourd'hui, on parle encore des droitiers ou des gauchers. Il y a peut-être des ambidextres aussi. Mais il y avait, à l'époque, deux catégories de gens. Il y avait ceux qui étaient juifs par leur naissance et puis ceux qui étaient païens, non-juifs. Il avait hérité, Dieu lui avait confié le ministère des non-juifs. C'était énorme. Dans Galates, une lettre que Paul a écrite aux chrétiens d'Asie mineure, Galates 2, 7 et 8, il écrit en parlant de sa rencontre avec les apôtres. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'était une autre façon de parler des païens, ils n'avaient pas reçu la circoncision qui était un signe distinctif des juifs. Il m'a été confié donc ce ministère de l'évangile pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. L'apôtre Pierre, lui, il devait s'occuper des Juifs. Car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Paul était capable de prêcher aux Juifs, mais il savait qu'il avait été appelé. Sa vie, il y avait un appel sur lui pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Dans Acte 9, on voit la conversion de Paul, c'est le fameux épisode avec Ananias. Après avoir fait tomber Paul de son cheval sur la route de Damas et lui avoir donné une vision, Dieu avait parlé à un disciple nommé Ananias en disant d'aller voir cet homme. Et Ananias avait répondu, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Il est en train de dire, « Seigneur, je crois que tu as un mauvais numéro. » C'est pas moi qui va aller aider cet homme qui persécute tes enfants. Et puis la réponse, mais le Seigneur, verset 15, lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois. Les nations, c'est une autre façon de parler des non-juifs, des païens, devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël, donc aussi pour les juifs. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Paul avait été appelé par Dieu, équipé par Dieu, par l'intermédiaire de sa grâce et des dons qu'il avait reçus. Dieu avait même donné à Paul le don d'accomplir des miracles. Je ne sais pas si c'est... Je crois que non, je crois que quelqu'un me disait justement un épisode qui est dans la Bible est un épisode de guérison, est un épisode purement médical dans le film. Donc à voir et à savoir lire entre les lignes. Il dit, oui, je suis un serviteur. Et il dit même, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, l'ancienne Yougoslavie à peu près, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. C'est assez impressionnant. Et il nous le dit pas pour se vanter, parce qu'il reconnaît que c'est seulement, il dit seulement les choses que Christ, que Dieu a fait par lui. Et que si ce n'était pas Christ, il n'aurait rien fait. On l'a vu déjà dans son appel, dans le livre des Actes, chapitre 9. Dieu a fait une œuvre, il a utilisé même des signes et des prodiges, donc des miracles. La puissance de l'Esprit de Dieu, et lui a abondamment propagé l'Évangile de Christ. C'est un peu comme s'il nous dit qu'en fait il s'est acquitté de sa mission d'annoncer l'Évangile de Jérusalem à la Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il disait « J'ai annoncé l'Évangile de Miami en Floride jusqu'à Seattle dans l'État de Washington ». C'était énorme. Ça représente près de 2500 kilomètres. Donc, ce n'est pas la distance entre Seattle et Miami, mais c'est une ampleur fantastique. 2500 kilomètres, c'est long. Surtout quand on fait ses déplacements à pied. Il n'y avait pas de Macron bus, de bus Macron. Il n'y avait pas de EasyJet, il n'y avait pas Air France non plus. 2500 kilomètres en sandales. De temps en temps, peut-être il avait un cheval sur lequel il mettait des affaires, mais des milliers de personnes sauvées, des centaines d'églises implantées, Et on se dit, ouais, mais il avait des prodiges et des miracles. Je crois que Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui. Et qu'il en fait, et je crois vraiment que le plus grand miracle, c'est bien d'être guéri miraculeusement, mais c'est surtout le plus grand miracle, c'est le salut d'une âme. Et c'est important de penser que chaque personne avec qui vous entrez en contact peut être sauvée. On a souvent tendance à raisonner humainement en disant « Ah oui, c'est une personne très gentille. Elle n'est pas loin de connaître le Seigneur. Je vais lui parler et ça va se passer. » En fait, Paul était un persécuteur de l'Église. Il est devenu le plus grand apôtre. Il a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament. On parle de lui encore aujourd'hui. On fait des films sur sa vie. C'était un persécuteur de l'Église. Et quand on parle à quelqu'un de Dieu, c'est important de penser que oui, cette personne peut venir vraiment un jour vous dépasser dans la foi, devenir un implanteur d'église. Ne laissez pas l'ennemi vous penser qu'il n'y a aucun espoir avec la personne à qui vous parlez. À ce propos, si vous êtes intéressé par le témoignage dans la rue, on va essayer de former une équipe. On le fait depuis quelque temps avec Rod Lann à la fac. Hier, on l'a fait avec un petit chariot genre témoin de Jéhovah sur la promenade des Anglais. Et il y a du monde. Il y a des traités à donner. Si c'est quelque chose qui vous motive, venez m'en parler, on verra. Peut-être faire une petite formation, savoir comment répondre à certaines réponses bateau.
Oui, mais si Dieu existe, pourquoi la souffrance des enfants?
Qu'est-ce que vous diriez à ça?
Je sais pas.
Mais il y a des... On n'a pas nécessairement une réponse qui va convaincre tout le monde, mais on a des arguments à faire valoir, et on peut toujours parler de Jésus et de son amour pour tous les hommes. Il dit aussi qu'il a été un pionnier. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où le Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est un verset d'Ésaïe. Et Paul se faisait un point d'honneur de ne pas aller dans une ville où il y avait déjà une communauté de chrétiennes. Là, il voulait passer à Rome, et c'était plus pour les encourager, ce n'était pas pour implanter une nouvelle église. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes en France qui n'ont aucun témoignage chrétien, aucune église évangélique. Puis il y a des villes plus populaires comme Paris ou Nice où il y en a davantage. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ces églises n'ont pas atteint la capacité que la population justifierait. Mais cette idée d'être pionnier quelque part, et toute église doit avoir cette vision pionnière, de dire on veut soutenir un ministère qui est pionnier, ou l'implantation d'une église dans un autre endroit. Paul était un exemple de ça. Il voulait que ceux qui n'avaient jamais entendu parler puissent entendre parler. Et puis il explique que oui, c'est ce qui l'a empêché d'aller chez eux pour l'instant. Mais maintenant, comme il a terminé le travail, verset 23, mais maintenant, je vais relire à partir du verset 17, on va accélérer un peu. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Ça, c'est donc la raison d'être de la lettre. Et puis il dit, mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions et que depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et en recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait du moins en partie mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïs et la Grèce ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'Évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Le Dieu de l'espérance, qui est aussi le Dieu de la joie, est ici dénommé le Dieu de la paix. Il fait des projets de voyage. Il a terminé son travail à l'est de Jérusalem, à la moitié de l'Europe. Et son désir maintenant, c'est de passer à la deuxième moitié. Et je ne sais pas comment c'est rendu dans le film, mais Paul avait un zèle fantastique. Rien que d'entendre ses récits de voyage, on est fatigué. Et il était toujours, on le battait, il était à moitié mort, il se relevait, il revenait prêcher. Parce qu'il avait, cette foi profonde qu'il y avait un salut en Jésus-Christ qu'il fallait annoncer à tous. Et si souvent on manque de zèle, s'il est plus facile d'inviter les gens à un pique-nique qu'à faire de l'évangélisation ou à même à une réunion de prière, c'est parce que quelque part, peut-être notre foi n'est pas là où elle devrait être. Il n'y a rien de mal avec les pique-niques, on en a fait un la semaine dernière et c'est très bien. Mais est-ce qu'on est motivé par l'urgence du salut des autres? Et je me pose la question moi-même. Je suis dans une position où je peux dire ben, je contribue, etc. Mais je suis toujours repris lorsque je parle directement à des gens de Jésus pour la première fois. On voit alors les questions qu'ils se posent et auxquelles nous avons certaines réponses. Elles vont peut-être pas les convaincre, mais est-ce que... Et ça commence dans nos familles, c'est pas souvent facile parce qu'ils nous connaissent, ils nous ont connus avant Christ. Et ils savent pousser le bouton pour nous mettre en colère, ou avec vos voisins, vos collègues de travail. Une petite réflexion, il n'y a pas besoin d'avoir appris une présentation d'évangile en 25 points. Et ben, j'ai fait confiance à Dieu, ben, il a répondu à mes prières. Ah, tu pries toi? Oui, tu aimerais prier pour quelque chose? Hein, pourquoi pas? Il a... Donc son projet, c'est d'aller en Espagne. L'Espagne, c'était le bout du monde à l'époque. Après, il y avait l'Atlantique, personne n'avait jamais vu ce qui se passait là-bas. Et on est content d'avoir des gens du bout du monde parmi nous. Mais pour eux, c'était, ils ne parlaient même pas du Portugal, ils connaissaient que l'Espagne par la mer, alors que le Portugal est encore plus loin. Et pour lui, c'était « je vais aller en Espagne ». Mais il avait vu une vieille carte dessinée sur une peau de vache ou un parchemin et il s'est dit « ah, il y a Rome, la capitale de l'Empire, c'était la grande ville. Il n'y avait pas de ville plus prestigieuse. » Et il avait le désir de s'arrêter là-bas. Mais son but, c'était l'Espagne. Et... il avait de la suite dans les idées, il était persévérant et d'abord il voulait revenir à Jérusalem parce qu'il avait suscité une collecte pour aider les juifs, les chrétiens de Jérusalem. On pense qu'il y avait eu deux choses, il y avait la persécution des chrétiens par les juifs à Jérusalem qui faisait qu'ils étaient très pauvres Et aussi, il y avait une période de sécheresse qui avait frappé surtout les chrétiens. Donc, il avait demandé aux païens, aux convertis grecs, l'Achaïe, la Macédoine, au nord de la Grèce, il avait réuni une collecte des fonds. Et il voulait amener ça. Et son désir, c'était d'unifier tous les chrétiens du monde, de montrer que ceux qui ont peuvent donner à ceux qui n'ont pas. Et puis, il insiste sur le fait que souvent, on critique un peu les gens qui donnent de l'argent au lieu de venir évangéliser dans la rue, ou ceux qui se contentent de faire un chèque. C'est aussi un service de Dieu. Les choses matérielles ne sont pas de moindre importance que les choses spirituelles. Elles vont les unes avec les autres. Le salut, bien sûr, ce n'est pas dans l'argent, mais pour annoncer l'évangile, il faut envoyer des gens. On avait vu dans Romains 10... C'est comment ils vont entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui vient leur parler. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé ces gens qui vont aller leur parler, comment ça va être possible? Donc, les choses matérielles, et c'est ce qu'il dit. Il dit, eux, ils ont reçu des avantages spirituels de votre part. Vous avez gardé les oracles de Dieu. On a l'Ancien Testament, à partir duquel on peut annoncer l'Évangile. Ils vous ont donné des avantages spirituels. Il est de votre devoir de les récompenser avec des choses, de les repayer en quelque sorte avec des choses matérielles. Et donc il voulait s'acquitter de cette tâche, cette affaire. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Il savait aussi, il avait cette assurance, il débordait d'espérance, que ce serait avec une pleine bénédiction de l'Évangile qu'il le ferait. Lorsqu'on connaît l'histoire du livre des Actes, on sait qu'en fait, il s'est retrouvé à aller à Rome, mais comme prisonnier de l'empereur. Pas exactement la façon dont il prévoyait d'y aller. On ne sait pas pour sûr s'il a été jamais en Espagne. Certains pensent, il y a un père de l'Église, c'est-à-dire un des premiers grands personnages de l'Église du premier siècle, Clément, qui a parlé de ce qu'il avait été libéré de Rome et qu'il était parti en Espagne avant d'être repris une deuxième fois et exécuté par la hache sous l'empereur Néron. Donc, j'aime bien, c'est le grand apôtre Paul qui supplie ces chrétiens de Rome de prier pour lui. Si on se dit que lui avait besoin de prière, je me dis que j'ai besoin de prière, que nous tous, nous avons besoin de beaucoup de prière. Je vous en supplie par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit. L'Esprit Saint, ce n'est pas une force invisible, c'est un Esprit qui vous aime. L'amour de l'Esprit, combattez avec moi. C'est en fait l'expression pour dire, c'est le mot qui nous a donné l'agonie. Soyez à l'agonie avec moi dans vos prières pour moi. Waouh ! Est-ce que moi je suis souvent à l'agonie dans mes prières pour vous ? Est-ce que vous êtes à l'agonie dans vos prières pour moi ? Nous le devrions. Nous devrions faire cela. Tout passe par la prière. Prier pour être protégé des incrédules de la Judée, donc des non-chrétiens à Jérusalem. Il avait peur d'être attaqué. Il avait aussi cette prière un peu surprenante. Il voulait que la collecte de fonds des païens soit bien reçue par ses anciens juifs. Il y avait même là, il était sensible, il pouvait y avoir un danger spirituel. Donc il priait pour ça. Et puis il priait pour qu'ils viennent, ils puissent venir les voir dans la joie. Si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Il avait un zèle incroyable, il avait évangélisé la moitié du monde de l'époque, il voulait évangéliser la seconde moitié. Il aspirait un peu de repos, il n'y a rien de mal à prendre du repos. Et ça peut être, ça dépend des tempéraments. Il y a des gens, on appelle ça les types A, qui, lorsqu'ils se reposent, se sentent coupables. Moi, j'ai tendance à être comme ça. When I relax, I feel guilty. quand je me repose, je me sens coupable. Il souhaitait venir dans la joie. Il avait des raisons d'être joyeux. Il n'a pas payé son voyage. C'est le gouvernement romain qui lui a payé le voyage, qui lui a donné un logement. Après, il a loué une maison lui-même. Il faut voir le dernier chapitre des Actes. Mais on voit que Paul, il avait des projets. Et souvent, les chrétiens disent « Oh, je ne sais pas comme le Seigneur va me diriger. » Il n'y a rien de mal à, dans la prière, chercher des projets pour votre futur, tout en laissant à Dieu, bien sûr, le soin de vous réorienter si vous faites fausse route. Mais c'est intéressant de voir, ça nous parle un peu, ces quelques versets nous éclairent un peu sur ce gars-là. Et je suis curieux de voir comment ça ressort dans le film, si ce que je vous ai dit va être corroboré ou complètement négligé. Mais c'est une grande inspiration que la vie de Paul. On va prier et prendre la Sainte Cène aussi. Seigneur, merci pour ces enseignements que tu nous montres dans la parole de Paul, dans cette lettre aux Romains. On a vu toutes les vérités doctrinales, la théologie qui nous a annoncé le salut par la foi, la justification, la sanctification, la glorification, le fait que nous ne sommes plus condamnés si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation, que ta présence est avec nous, que rien ne peut nous séparer de ton amour, toutes ces vérités. Et puis il nous a appris à les mettre en pratique, à nous présenter nos corps comme une offrande sainte, agréable à Dieu, chaque jour. Et puis là, il livre un peu plus de sa personnalité, de son tempérament, en nous rappelant ce que doit être un vrai chrétien, Seigneur. Tu as parlé par ton Esprit Saint, Seigneur, à chacun de nous. Nous avons reçu des leçons, des choses que nous devons mettre en pratique, des choses que nous devons abandonner, des choses que nous devons augmenter. Fais ton œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié. Amen.